VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mardi 28 novembre 2017. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
Au Zimbabwe, dissolution du gouvernement de Robert Mugabe par le nouveau président Emmerson Mnangagwa.
En République démocratique du Congo, début hier à l'Assemblée nationale, de l'examen d'un projet de révision de la loi électorale.
Au Burkina Faso, 3 blessés à Ouagadougou par une grenade lancée hier soir contre un véhicule de l'armée française, peu avant l'arrivée du président Emmanuel Macron.
Le pape François rencontre aujourd'hui Aung San Suu Kyi à la tête du gouvernement birman. À l'ordre du jour, l'exode des Rohingyas.
L'ONU tente de relancer aujourd'hui les pourparlers de paix de Genève sur la Syrie.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Zimbabwe, le nouveau président Emmerson Mnangagwa a dissous le gouvernement de son prédécesseur et confié temporairement 2 portefeuilles importants à des ministres du gouvernement démissionnaire. Le point avec Anastasie Tudiech.
Emmerson Mnangagwa a nommé 2 personnalités de la ZANU-PF. Patrick Chinamasa s'est vu confier les finances, un portefeuille qu'il a déjà occupé. Simbarashe Mumbengegui a hérité des affaires étrangères, un poste que lui aussi avait déjà occupé. Le nouveau président du Zimbabwe n'a pas encore nommé toute sa nouvelle équipe, mais a convoqué hier les directeurs de cabinet de tous les ministères. Emmerson Mnangagwa a promis vendredi, lors de sa prestation de serment, de reconstruire une économie en ruine et de servir la nation. Par contre, Ignatius Chombo, ancien ministre des Finances, poursuivi pour corruption, abus de pouvoir et fraude, a été maintenu en prison. Kudzai Chipanga, ancien chef de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir, s'est vu lui aussi refuser sa demande de libération conditionnelle. Ils sont tous les deux réputés proches de l'ex-première dame Grace Mugabe. Ils ont été arrêtés lors du coup de force de l'armée et doivent à nouveau comparaître le 18 décembre devant la justice.
En République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale a entamé hier l'examen d'un projet de révision de la loi électorale, une étape importante dans le processus vers les élections promises. Abdourahmane Dia.
Le projet de loi doit être adopté d'ici vendredi et promulgué le 15 décembre au plus tard selon le calendrier. Plusieurs élections, dont le scrutin présidentiel, doivent se tenir le 23 décembre 2018. Le texte prévoit un nouveau seuil légal de représentativité aux législatives pour décourager les candidatures fantaisistes et favoriser les regroupements des partis politiques, a indiqué le ministre de l'Intérieur. Emmanuel Ramazani Chadari estime qu'il y a 703 formations politiques dans le pays. Corneille Nangaa, le président de la CENI, a justifié sa participation à une réunion des cadres de la majorité, assurant qu'il s'agissait d'une pré-consultation de la majorité présidentielle et de l'opposition. La CENI a récemment annoncé la tenue des élections pour le 23 décembre 2018. Hier, la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, a demandé au président Kabila d'annoncer clairement sa non-participation à la prochaine présidentielle. Pour le moment, M. Kabila n'a fait aucune déclaration sur ses intentions.
Au Burkina Faso, 2 motards encagoulés ont lancé hier une grenade contre un véhicule de l'armée française dans un quartier nord de Ouagadougou, blessant 3 civils, dont un grièvement. L'incident a eu lieu peu avant l'arrivée du président français Emmanuel Macron dans la capitale burkinabé, a indiqué une source sécuritaire. Depuis 2010, lorsque la menace djihadiste s'est précisée dans la bande sahélo-saharienne, des éléments des forces spéciales françaises basées à Ouagadougou apportent leur soutien aux forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme.
Par ailleurs, des manifestants ont bloqué hier, en fin d'après-midi, une portion d'un célèbre boulevard de Ouagadougou pour le rebaptiser boulevard Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé. En majorité constituée d'étudiants et de membres de la société civile, ces manifestants ont voulu ainsi lancer un message au président Emmanuel Macron qui devait emprunter le tronçon pour se rendre à l'université de Ouagadougou où il va prononcer ce matin même un discours. Des détails avec notre correspondant Issa Napon.
À part les étudiants qui posent les questions gentilles. Près d'une centaine de manifestants se sont fait entendre aux abords du boulevard Charles de Gaulle de Ouagadougou hier après-midi. Ils ont fustigé à coups de slogans certains rapports entre la France et l'Afrique. Ils se sont aussi appliqués avec de la peinture à rebaptiser en lettres géantes la célèbre avenue que doit emprunter le président Macron afin de se rendre à l'université. Nouveau nom inscrit boulevard Thomas Sankara afin de lancer un message, indique Serge Smoké Bambara, leader du ballet citoyen.
C'est quand même un papier de l'histoire de cette avenue-là, injustement baptisée Charles de Gaulle, puisse être baptisée Thomas Sankara. Et parce que finalement, ça serait pour une fois mettre un frein à cette néocolonialisation qui n'a de cesse de se répéter inlassablement. Donc il est bien que ceux-là qui nous donnent des leçons de paternalisme, nous puissions leur donner des leçons de liberté, des leçons de dignité, des leçons de désaliénation. Aujourd'hui, nous sommes fiers de voir que cette avenue, même si elle n'est pas encore baptisée par l'État burkinabé, elle est déjà baptisée par la jeunesse burkinabé. C'est ça l'essentiel.
Après le Burkina, le président Macron est attendu à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, qui abrite mercredi et jeudi un sommet Union européenne-Union africaine. À la veille de cette rencontre, le 6e Forum des affaires a mis l'accent hier sur l'innovation numérique au service du développement durable. Éric Manirakidza.
Investir dans la jeunesse pour un avenir durable est le thème principal du sommet. Des initiatives développant le numérique pour pallier les carences de l'éducation et de la formation professionnelle en Afrique ont été récompensées dans le cadre du concours d'innovation Digital Africa. L'Internet sur téléphone mobile s'est largement répandu en Afrique, mais 8 Africains sur 10 ne sont pas connectés à Internet de façon permanente. Abdoul Diallo, un ingénieur sénégalais de 26 ans dirigeant la société Volcano, a conçu un logiciel permettant aux étudiants d'accéder aux cours vidéo et à des programmes interactifs à des prix accessibles au plus grand nombre. L'Ivoirien Lamine Barot, 23 ans, a créé Etudesk et propose des cours en ligne sur les entreprises pour combler le déficit des jeunes diplômés africains. Enfin, YouScribe du français Juan Pirlo de Corbion permet de publier livres et travaux aux universitaires. Cette application propose 200 000 références de documents dans les secteurs éducatifs et professionnels. Au total, ce concours de Digital Africa a récompensé 5 innovations africaines et 5 françaises.
Au Mali, un ancien magistrat à la retraite a été nommé à la tête du ministère de la Justice après la démission du ministre Mamadou Ismaël Konaté. Cette démission intervient dans une situation très tendue au niveau de la justice malienne après plusieurs affaires en instance. Kassim Traoré nous brosse le portrait d'Amidou Younoussa Maïga.
Natif de Gao, le tout nouveau ministre de la Justice, est un magistrat à la retraite. Amidou Younoussa Maïga est âgé de 67 ans. Il a fait ses études à l'ENA de Bamako avant d'aller à l'École nationale de la magistrature en France. L'enfant de Gao fut tour à tour juge de paix, juge d'instruction, avocat général près la cour d'appel de Bamako et conseiller à la même cour. Amidou Younoussa Maïga a servi au bureau du procureur du tribunal international pour le Rwanda de 1997 à 2012. Le nouveau ministre de la Justice, Garde des Sceaux, vient à un moment où la tension est vive au niveau de la justice, surtout avec les multiples dossiers en instance dont les traitements comme les différentes interpellations de Rasbach posent problème. Le procès de Amadou Aya Sanogo et compagnons poursuivis dans l'affaire des 21 Bénin Rouges assassinés constitue des dossiers brûlants pour le nouveau titulaire du ministère de la Justice, Garde des Sceaux. En tout cas, Mamadou Ismaïla Konaté, qui a démissionné, n'a donné pour le moment aucune explication par rapport à sa démission, qui d'ailleurs a été une grande surprise pour bon nombre de Maliens. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Birmanie, le pape François sera reçu aujourd'hui par Aung San Suu Kyi à la tête du gouvernement, temps fort de son voyage dans un pays blessé par des décennies de violence et la crise des Rohingyas musulmans.
Aux États-Unis, la Cour suprême a refusé hier d'intervenir dans le débat sur l'utilisation des armes à feu. Elle a rejeté des recours appuyés par le principal lobby des armes, la NRA. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
En refusant d'intervenir dans le débat sur les armes d'assaut, la Cour suprême a confirmé, de fait, la validité d'une loi adoptée par l'État du Maryland. Cette loi de 2012 interdit la vente de fusils d'assaut. Elle a été votée après une attaque qui a fait 26 morts, dont 20 enfants, dans une école de Sandy Hook. Depuis, des partisans de l'utilisation des armes à feu, soutenus par la NRA, tentent d'obtenir l'annulation de cette loi qu'ils qualifient de restrictive. La haute cour a aussi refusé d'examiner une demande de résidents de la Floride qui veulent porter leurs armes de façon visible. La loi actuelle leur impose de transporter leurs armes dissimulées dans un sac ou sous leurs vêtements. Après chaque fusillade de masse, le deuxième amendement de la Constitution, qui permet à chaque Américain de détenir une arme, fait l'objet de longues batailles juridiques. La Cour suprême refuse d'entrer dans les détails sur les armes autorisées ou non, selon les villes et les États.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Le Cameroun reçoit de la BAD environ 120 milliards de francs CFA pour la première phase de son programme d'appui à la compétitivité et à la croissance économique. Ce programme vise à consolider les finances publiques afin de jeter les bases d'une croissance économique robuste, résiliente et inclusive. Pour renforcer la compétitivité des économies du Burkina Faso et du Niger, la BAD va débloquer 107 millions de dollars. Ce financement servira à la construction et la réhabilitation d'un tronçon routier de 218 km reliant les deux pays. L'Union européenne, le Japon et le Burkina apporteront le reste du coût pour réunir le budget requis estimé à 225 millions de dollars. Jusque-là, leurs importations transitent par les ports de Tema et Takoradi au Ghana, d'Abidjan en Côte d'Ivoire, de Lomé au Togo et de Cotonou au Bénin. Enfin, le Nigeria est classé pays le plus riche d'Afrique en 2017. L'Afrique du Sud arrive en deuxième position. Au troisième rang, l'Égypte, l'Algérie complète leur quartier de tête, puis le Soudan qui surclasse le Maroc. D'après les chiffres de la BAD, l'Angola a resté le septième, tandis que l'Éthiopie gardait sa huitième place, le Kenya et la Tanzanie occupent respectivement la neuvième et dixième position.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Mazembe devrait enfin rentrer à Lubumbashi ce mardi.
À vainqueur samedi à Pretoria de la Coupe de la Confédération face aux Sud-Africains de Supersport United, les corbeaux de Mazembe sont toujours en Afrique du Sud ce matin. Pour des raisons inconnues, South African Airlines, qui devait transporter les corbeaux hier, n'a pas été autorisé à atterrir avant la nuit par les autorités congolaises. Finalement, après l'achat de nouveaux billets et un plan de vol modifié, la délégation quittera Johannesburg ce mardi matin vers 10h pour voler sur Ndola en Zambie avant de franchir la frontière à Kasumbalesa et d'arriver dans la cité cuprifère entre 15 et 16 heures heure locale. Les corbeaux pourront alors se rendre dans leur stade de Kamalondo et faire la fête avec leurs supporters.
Sadio Mané, meilleur joueur sénégalais de l'année.
Le milieu offensif de Liverpool a été désigné meilleur joueur sénégalais de 2017 par la presse sportive nationale. Sadio Mané qui obtient cette distinction pour la quatrième année consécutive, un record. Il devance les défenseurs Kalidou Koulibaly de Naples et Karam Bodge d'Anderlecht.
On connaît les 11 finalistes pour le trophée des meilleurs joueurs africains 2017.
De 30 nominés, 11 joueurs sont retenus pour succéder à Riyad Mahrez, Bertrand Traoré du Burkina Faso, Denis Onyango de l'Ouganda, Karim El Armadi du Maroc, Keita Baldé du Sénégal, Mohamed Salah l'Égyptien, Naby Keita le Guinéen, Pierre-Emerick Aubameyang du Gabon, Sadio Mané on en parlait du Sénégal, Victor Moses du Nigeria, Vincent Aboubakar du Cameroun et Yassine Brahimi de l'Algérie.
Le retour de Gareth Bale avec le Real.
L'attaquant gallois indisponible depuis 2 mois va enfin rejouer avec le Real Madrid aujourd'hui en 16e de finale. Retour de la Coupe du Roi contre Fuenlabrada, un club de 3e division espagnole. Annonce hier de Zinedine Zidane, son entraîneur. On rappelle que Gareth Bale, blessé au mollet gauche fin septembre, puis à la cuisse gauche en novembre, n'a plus joué depuis un match de Ligue des Champions emporté contre le Borussia Dortmund en septembre dernier. Allez Idrissa, avec vous, quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Orlando Magic et Indiana Pacers, 109-121. Cleveland Cavaliers et Philadelphia Sixers, 113-91. Detroit Pistons et Boston Celtics, 118-108. Portland Trail Blazers et New York Knicks, 103-91. Brooklyn Nets et Houston Rockets 103-117, Dallas Mavericks et San Antonio Spurs 108-115.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Dans l'est de la République démocratique du Congo, où plus de 70 groupes armés restent actifs et continuent à recruter des enfants, la société civile demande aux autorités du pays et à celles de la sous-région une justice exemplaire pour tous les chefs de guerre jusqu'à présent arrêtés. Depuis 2016, l'ONG Child Soldier International, en collaboration avec des ONG congolaises œuvrant dans les domaines de la rééducation des ex-enfants soldats, ont interrogé plus de 150 000 jeunes filles sur leur situation après leur retour dans leur communauté d'origine, où elles subissent une stigmatisation et un isolement total. De Goma, capitale du Nord Kivu, reportage de notre correspondant Charlie Kasereka.
Les chercheurs de cette ONG, Child Soldier International, ont interrogé environ 150 jeunes filles anciennement associées aux groupes armés sur leur difficulté de s'intégrer socialement dans leur communauté d'origine. Marie de la Soudière est parmi les chercheurs qui ont parcouru la région pour rencontrer ces jeunes filles.
Elles ne demandaient rien de plus, qu'on les laisse vivre comme les autres, qu'elles puissent s'intégrer, qu'elles puissent aller dans les groupes de jeunes, qu'elles puissent chanter dans les chorales. Les résultats, une mobilisation très 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 large des communautés elles-mêmes, des familles et des notables.
D'autres ONG locales ont déjà commencé les travaux de sensibilisation communautaire pour un apprentissage au métier à certaines de ces jeunes filles pour qu'elles soient autonomes dans le futur. Mais ces Simon et Joachim sont parmi ceux qui œuvrent dans ce secteur depuis plus de 10 ans. Ils estiment que beaucoup reste encore à faire suite aux conflits récurrents dans leur milieu.
Puisque l'année passée, nous avons commencé avec le projet de l'alphabétisation.
Nos enfants, nos filles sont toujours exposées au risque de recrutement.
Pour l'UNICEF RDC, 80% de ces enfants ont réussi jusqu'à présent à quitter les groupes armés depuis le lancement du processus de réintégration et de réinsertion sociale, mais la situation des jeunes filles reste préoccupante. André Moussa est le chargé de protection de l'enfance pour l'UNICEF Zone Est en RDC.
On compte à ces jours à peu près de 70 groupes armés qui sont actifs au niveau de l'Est de la RDC. Et donc il est difficile d'établir exactement le nombre d'enfants qui restent encore dans les fosses des groupes armés, étant donné que les groupes armés naissent, se font, se fusionnent et chaque jour il y a toujours cette dynamique de conflit qu'on ne sait pas prévenir. Lorsque les communautés savent que les filles ont été utilisées et recrutées par les postes du groupe armé, elles subissent les rejets, la discrimination, ce qui pose un problème sérieux de réintégration des filles.
Les groupes armés continuent à utiliser des enfants, que ce soit les filles ou les garçons. Les plus souvent, les chefs de ces milices se justifient en disant être des groupes d'autodéfense contre les agresseurs. Ils nient toute présence des enfants. Ils sont écartés loin de notre micro et de la caméra. Ici, nous sommes au site Kivu, dans la plaine de la Ruzizi, où actuellement plus de 20 groupes armées sont encore actives.
Seulement les plus forts gardent nos positions, pas les enfants. Mais nous voulons aussi être démobilisés et quitter cette brousse.
Récemment, dans un communiqué, la coordination de la société civile au Nord Kivu a demandé une justice exemplaire pour tous ces seigneurs de guerre qui continuent à utiliser les enfants au sein de leur milice. Étienne Kambale en est le rapporteur.
L'impunité, la léthargie ou la lourdeur dans les traitements des dossiers de certains leaders des groupes armés, notamment Thabo Tabéry Tcheka, chef de la milice NDC, Jamil Mukuru, chef de l'ADEF. Cette situation a posé les lits au découragement.
La sensibilisation doit donc continuer pour permettre une bonne réintégration sociale de tous ces enfants, garçons et filles, ayant perdu leur enfance au sein des milices. Charlie Kasereka, Goma, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Report des élections régionales et locales au Mali, initialement prévues pour le 17 décembre 2017, les élections des présidents de régions et des maires de 59 communes ont été reportées à avril 2018. C'est ce qu'a décidé le gouvernement qui dit vouloir permettre aux acteurs de se préparer, ajoutant que ce report permettra de tenir les élections sur l'ensemble du territoire national. Pour une analyse, Yakuba Oué et Draogo a joint Moussa Boli, journaliste à Bamako.
L'histoire a été prévisible de temps que depuis que la date des élections a été fixée au 17 décembre, il y a eu une certaine recrudescence de la violence au centre et puis au nord du pays, alors que tout le monde sait que c'est des élections pour les collectivités, donc leur légitimité dépend en partie de l'organisation sur l'ensemble du territoire.
Le gouvernement dit officiellement vouloir permettre aux acteurs de se préparer et permettre aussi que les élections se tiennent sur l'ensemble du territoire. Partagez-vous ce motif de report?
Un motif beaucoup plus politique. En novembre 2016, on a organisé des communales. Les communales n'ont pas pu. C'est-à-dire qu'ils tenaient sur l'ensemble du territoire, mais dans la grande majorité des communes du pays, on a pu organiser des communales. Le mandat des élus concernés a pris fin depuis avril 2014. Donc, ça va faire 5 ans d'illégalité pour ceux qui sont en place.
Certains partis politiques et groupes armés avaient demandé ce report-là pour des raisons d'insécurité. Pensez-vous que le gouvernement a cédé à la pression de ces demandes-là?
Personnellement, je pense que le gouvernement a cédé beaucoup plus à la pression de ce groupe armés, parce que même l'opposition. Après avoir présidé un moment, après avoir protesté un certain temps par rapport au calendrier électoral, il n'était pas été parvenu à la conclusion qu'il pourrait organiser les élections. Mais la crise de l'élection, aussi bien des partenaires comme l'Union européenne, était que le gouvernement puisse assurer vraiment les conditions d'une élection transparente pour tous. Le gouvernement a beaucoup plus cédé. Alors que cette question se dit à une fois concrètement pour ramener la sécurité dans leur bastion. Je ne vois pas, c'est un autre système de la vie en Europe. Aujourd'hui, si c'est des groupes représentatifs des populations, ces groupes doivent être capable de superviser les élections dans leur localité pour que les mairies puissent sortir de cette impasse.
La nouvelle date retenue, on l'évoquait tout à l'heure, pour les régionales et les communales, c'est avril 2018. La présidentielle, elle, est prévue pour juillet 2018. Pensez-vous que la sécurité puisse s'améliorer sur le territoire national afin que ces élections-là puissent s'éteindre?
Les reports successifs pour les raisons de sécurité risquent d'entraîner le Mali dans une zone d'instabilité politique. Parce que si en juillet 2018, on n'est pas en mesure d'organiser les élections l'ensemble du territoire. Le mandat des présidents de la République, ce n'est pas comme le mandat d'un maire, d'une commune ou d'un conseil régional. Et si jamais en juillet, la situation sécuritaire n'a pas évolué, et qu'on va encore réconcilier les présidentielles. Et quelles seront les conséquences d'un tel report sur la stabilité même politique d'un pays déjà éprouvé? Donc, je pense que ce report nous entraîne progressivement vers une crise politique majeure dans le mois à venir. Parce que je ne suis pas sûr que la situation sécuritaire puisse réellement changer d'ici le scrutin présidentiel non plus.
C'était notre confrère Moussa Boli, journaliste à Bamako.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Forte mobilisation de la diaspora africaine pour protester contre la situation des migrants africains en Libye. Après Paris, Dakar et Washington, des manifestants se sont donné rendez-vous devant la mission de la Libye au siège de l'ONU à New York ce mardi. Ekia Badou a joint à New York Doudou Steven Cissé, l'un des organisateurs.
On a été motivés avec la collaboration des différents présidents d'associations, des ONG, des hommes de médias, des artistes africains qui sont ici à New York, également des étudiants. Nous avons bien voulu, à notre niveau, organiser cette mobilisation pour dire non à l'esclavage, pour décrier aujourd'hui ce qui se passe en Libye, qui est véritablement un crime contre l'humanité. C'est ainsi qu'on a décidé de manifester pour faire entendre nos voix ici, depuis New York, qui est le cœur du monde.
Avant ce reportage, vous étiez quand même au courant de comment était traitée la communauté africaine subsaharienne en transit par la Libye pour passer la Méditerranée et rejoindre l'Europe?
Vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a beaucoup d'informations. Donc, à travers les réseaux sociaux, on avait des informations, mais on n'avait pas véritablement d'informations fiables à un moment donné. Mais avec le reportage qu'on a vu au niveau de CNN, ça a déclenché la colère un peu partout. Parce qu'aujourd'hui, en ce 21e siècle, on ne peut pas se permettre de rendre un individu, un Africain ainsi. Mais c'est un problème réel. Se permettre de vendre quelqu'un comme si on était dans un marché, je pense que notre dignité a été bafouée. C'est la révolte aujourd'hui un peu partout en Afrique.
La communauté new-yorkaise, la communauté africaine se sent vraiment concernée. Vous espérez combien de personnes?
Elle va être suivie. Ce ne sera pas simplement une marche pour le jour J. On prévoit d'autres rencontres. Au niveau des Nations Unies, il y a des marches qui sont prévues au niveau de l'Union africaine, au niveau de Washington. C'est véritablement la mobilisation. Pour la première fois, je vois que les Africains de New York sont solidaires debout comme un seul homme pour dire non à l'esclavage. Et je pense que ça va continuer parce que c'est un problème réel. Et également, on va nous tourner vers nos dirigeants africains afin qu'ils puissent prendre leurs responsabilités parce que c'est ça aussi. Il faut essayer de mettre à la disposition des jeunes Africains aujourd'hui. Ils ont besoin de travail. Et c'est pour cette raison qu'ils ont décidé de partir. Et si nos dirigeants aujourd'hui prennent leurs responsabilités, je pense que plus personne n'ira vers Libye ou vers le Maroc ou au niveau de la Méditerranée.
Joint à New York, Doudou Steven Cissé, l'un des organisateurs de la manifestation aujourd'hui contre le traitement réservé aux migrants africains en Libye.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Les Rohingyas de Birmanie continuent d'arriver au Bangladesh malgré l'accord sur le retour des réfugiés signé par les deux pays la semaine dernière. 700 000 Rohingyas au moins sont concernés. L'exode des Rohingyas forme la toile de fond du périple du pape François en Birmanie et au Bangladesh, périple qui a débuté hier et s'étend jusqu'à samedi. Pour un état des lieux, Jacques Aristide s'est entretenu avec Philippe Bolopion de l'ONG Human Rights Watch.
Il est sans doute trop tôt pour parler du retour des réfugiés alors qu'ils continuent à fuir les violences qui les attendent dans l'état de Rakhine en Birmanie. L'objectif de moyen terme ou de long terme, c'est le retour de ces réfugiés, mais ça doit être un retour dans des conditions de sécurité. Ça doit être un retour qui est volontaire, dans la dignité, et malheureusement, tout indique que ces conditions pour l'instant ne sont pas remplies. Il est extrêmement dangereux aujourd'hui d'être un Rohingya en Birmanie.
Le nombre d'arrivées a toutefois décliné, d'après un lieutenant-colonel des gardes frontières du Bangladesh. L'espoir est-il donc toujours permis ?
Il ne faudrait pas trop s'enthousiasmer d'une réduction des chiffres, qui ne traduit pas forcément une réduction des violences. Au bout d'un moment, il y a une telle proportion de la population Rohingya qui a fui que forcément les chiffres finissent par se réduire. Ça ne veut pas dire en aucun cas que les conditions pour les Rohingyas dans l'état de Rakhine ne sont pas aussi dangereuses qu'elles ne l'étaient il y a quelques semaines ou quelques mois. Donc ce qu'il faudrait voir, c'est un réel changement sur le terrain et malheureusement rien n'indique qu'un tel changement ait pu avoir lieu. Au contraire, les autorités et l'armée birmane qui sont responsables de cette campagne de nettoyage ethnique continuent à nier tous les crimes qui ont été commis et gardent la tête dans le sable. Et dans ces conditions, non, on ne peut pas se réjouir d'une réduction du nombre des arrivées au Bangladesh.
À quoi faut-il s'attendre du délicat voyage du pape François en Birmanie et au Bangladesh cette semaine concernant cet exode des Rohingyas, d'ailleurs considéré par l'ONU comme une épuration ethnique?
Effectivement, c'est sans aucun doute une des pires campagnes de nettoyage ethnique de l'histoire récente. Plus de 600 000 personnes forcées de fuir leur maison en l'espace de quelques semaines. Cela montre l'ampleur et la cruauté de cette campagne de nettoyage ethnique menée par les autorités birmanes. Nous avons conclu que ces crimes étaient des crimes contre l'humanité, donc la gravité de la situation est extrême et dans ce contexte, on espère que le pape va utiliser son autorité morale, sa force morale, la force de sa voix pour dénoncer ces crimes et faire pression sur les autorités birmanes pour qu'ils cessent, pour que la discrimination contre les Rohingyas cesse, que les crimes contre les Rohingyas cessent. Certaines pressions sur le pape visent à le décourager d'utiliser le terme Rohingya. Nous pensons que ce serait évidemment une grave erreur. Une grande partie des Rohingyas de Birmanie ont perdu leur maison, ont perdu leur terre, leur dignité d'une certaine manière, et ce qu'il leur reste, c'est leur identité. Ce sont des Rohingyas, ils veulent être appelés les Rohingyas, et dans ce contexte, si le pape décidait de céder aux pressions racistes des autorités birmanes, ce serait une grave erreur.
Philippe Bolopion, directeur du plaidoyer à Human Rights Watch auprès de l'ONU à New York.
Ne manquez pas le nouveau rendez-vous de VOA Afrique, le monde au féminin, présenté par Nathalie Barge, tous les mardis et samedis à partir de 19h TU. Le monde au féminin est une émission interactive dans laquelle on aborde sans tabou toutes les questions qui concernent et préoccupent les femmes, les filles et la jeunesse.
Le monde au féminin, un espace réservé à tous, un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, tous les mardis et samedis, à partir de 19h TU sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.